repérage du bibliothécaire.
Bonjour Marc, comment ça va dans cette presque début de l'été?
Ouais, c'est un peu orageux, mais c'est bien, c'est bien humide, bien chaud.
Ouais, oui, mais voilà, c'est les orages qui annoncent les beaux temps.
Exactement, alors on se retrouve pour une nouvelle petite... des petits repérages.
Absolument, donc il y a des nouveautés comme toujours variées et riches qui arrivent chez nous grâce à nos lectrices et nos lecteurs. Et puis, parmi les livres lus, c'est moi. Il y a une jolie collection, bien sûr, des beaux policiers du monde entier, y compris un policier grec très sympa, d'un auteur qui s'appelle Marco Giannakis, qui est le 36836. Mais je vais parler des deux romans, dont un n'est pas forcément une nouveauté, mais qui n'avait jamais été lu. Et ce qui était dommage, parce que c'est un grand écrivain, il s'appelle Cynthia Ozick, c'est un écrivain américain, américaine, d'origine juive. Et le livre, c'est un tout petit livre, très court, mais très fort. C'est proportionnellement inversé la durée du livre et la force. C'est un livre qui fait 2 heures, il s'appelle Le Châle, donc le châle qu'on met sur les épaules. Et c'est l'histoire d'une... je ne vais pas tout raconter parce qu'évidemment le livre est petit, mais c'est une femme qui s'appelle Rosa, qui était prise évidemment à cette époque horrible des camps de concentration, qui a une petite fille qu'elle essaye de cacher avec son châle, parce que si on trouve les enfants... Et évidemment qu'il ne faisait pas de quartier, les enfants, dans cet environnement-là. Et il se passe des choses terribles. À la fin, on la retrouve aux États-Unis, après ce qu'elle a vécu. Je ne vais pas tout raconter. Et cette histoire qui est assez dure va être nuancée par une sorte des douceurs, dans la mesure où elle rencontre quelqu'un, déjà une femme âgée, qui le met un petit peu des couleurs dans cette vie. Mais c'est raconté d'une manière tellement, tellement forte, tellement précise, tellement poignante, que c'est un livre qui en même temps fait pleurer et qu'à la fin, quand même, fait sourire. Les Châles de Cynthia Ozick. Donc c'est le numéro 36851. Alors pour adoucir un peu tout ça, pour détendre l'atmosphère, je vais parler d'un autre livre qui est un peu plus léger. Là où on va vers le nord, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a des auteurs un peu farfelus dans ce monde nordique, et parmi ceux-là il y a un finlandais qui s'appelle Arto Pasilina, tu connais bien, ouais. Et puis donc son dernier livre s'appelle Un éléphant, ça quoi?
On dit que ça trompe.
Ah mais... oui, mais là, en l'occurrence, ça danse énormément. et donc, ce livre, ça parle d'une éléphante qui s'appelle Emilia. Alors, Emilia, elle a une dompteuse, enfin, la dame qui s'occupe d'elle, qui s'appelle Lucia. Et puis, elle fait plein de choses. Elle danse, la troïka même, et les gopaks. Et alors, ça fait la joie à tout le monde. Mais évidemment, tu sais qu'on protège les animaux. Et donc, comme on se protège des animaux, on ne peut pas obliger les animaux à faire ça. Et donc, la pauvre Emilia, pour son propre bien, soi-disant, se trouve au chômage. Donc, un éléphant au chômage, ce n'est pas évident. Tu ne peux pas placer comme ça facilement.
Non, 3 tonnes, ce n'est pas évident.
Elle ne peut pas être bibliothécaire, donc c'est un peu compliqué. Et donc, elle ne peut pas être... ingénieur du son, la trompe, ça peut faire du son, mais ça ne peut pas enregistrer. Non, bref, concrètement, elle est un peu mal en point. Et puis, Lucia... Elle ne veut pas la quitter, parce qu'elles sont très attachées l'un à l'autre, l'une à l'autre. Et alors, elle va la prendre avec elle. Et ils vont traverser la Finlande. Tu imagines déjà, il y a une histoire avec un lapin, mais non, c'est avec une éléphante, c'est un peu moins facile. Ils vont traverser la forêt de Finlande jusqu'à essayer de trouver un cargo qui l'amène en Afrique. Donc, Là, comme toujours, à Pasolina, c'est des trucs farfelus qui se passent. Et elle rencontre des gens complètement plus loufoques les uns que les autres. Et il y a quand même des petites histoires, des petits amourettes, des histoires d'amour. Et voilà, donc c'est distrayant, c'est plaisant, c'est un peu fou. Et ça allège un petit peu la force de l'autre dont on vient de parler. Mais c'est quand même sympathique. Alors, c'est donc Un éléphant, ça danse énormément avec le numéro 36809. Ça, c'est pour deux romans. Et donc, c'est là où on est dans le monde de la fiction. Je vais parler encore, peut-être, si tu me permets. Évidemment, il y a beaucoup de livres différents, de genres variés, mais d'un livre qui n'est pas une fiction, qui est un documentaire. Alors, c'est un documentaire qui a été écrit par un Suisse. Il s'appelle Jacques Légéret, qui était journaliste. Et il s'appelle L'énigme Amish. Alors, les Amish, je ne sais pas si tu connais un peu les Amish.
Oui, c'est, j'allais dire, une tribu, c'est une communauté qui vit aux États-Unis un petit peu comme au XVIIIe siècle.
Absolument. Et puis les Amish, ce que certains ne savent pas peut-être, c'est qu'à l'origine, c'était des Suisses, c'est une des branches de ce qu'on appelait les Anabaptistes, c'est-à-dire que c'était des... À l'époque de la réforme, tout cela, il prenait entre autres le fait que les baptêmes devaient être faits à des adultes, donc pour des gens qui étaient conscients, qui voulaient vraiment être baptisés, pas seulement des enfants, mais des gens qui sont en pleine possession de la réflexion sur la foi. Ils ont été persécutés, il y a eu des longues histoires. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils se sont établis, notamment aux États-Unis. Et en Pennsylvanie, essentiellement, dans certains endroits. Et ils ont gardé les modes de vie, les coutumes, les rejets de tout ce qui est technologie, etc. Et leur langue, ils parlent une langue qui se rapproche vaguement du bernois. Mm-hmm. Donc, si jamais il y a des bernois parmi nos auditeurs, c'est ça qui peut comprendre un petit peu les Amish. Mais ils font la liturgie en allemand. Et puis, évidemment, par la force des choses, ils ont appris un peu l'anglais, mais ils ne parlent pas dans leur communauté. Et Jacques Légéret, qui est un journaliste, qui a un enfant lourdement handicapé, pas tout raconter toute l'histoire, mais bref, il va partir avec son enfant. Et vers les Amish qui vont l'accueillir, alors que normalement ils sont assez fermés au monde extérieur, mais justement à cause de ça, à cause de sa situation, qu'ils considèrent comme un don de Dieu en quelque sorte, et ils l'ont accueilli pendant 14 ans et il a eu ses entrées chez eux, ils sont devenus amis, et puis ils racontent l'histoire, les modes de vie, les coutumes, la manière de réfléchir et d'envisager la réalité, les rapports aux autres des Amish, et c'est un livre passionnant. Qu'on trouve avec le numéro 36811. Alors voilà pour cette petite sélection de nos lectures, mais évidemment, il y a plein de romans, plein de documentaires qui feront certainement la joie ou même la tristesse joyeuse de nos auditeurs. On a aussi, bien entendu, des livres qui sont soit en production, soit en lecture, et qui vont être très prochainement à disposition de nos auditeurs et nos auditrices. Parmi ce livre-là, enfin, je vais en parler des trois comme ça, différentes, et il y a des romans, des documentaires. Il y a un documentaire qui va très bientôt être disponible, donc il sera dans les numéros prochains, mais je mets déjà un petit peu la pouce à l'oreille de nos auditeurs. Il s'appelle « Qui touche, nous touche tous » d'une certaine manière, enfin les Suisses, car il s'appelle « Des Suisses au cœur de la traite négrière ». De Marseille à l'Île-de-France, à Amsterdam et au Guyane. C'est-à-dire que, évidemment, la Suisse n'a pas été un pays conquérant en soi. Il n'y a pas eu de colonies, etc. Mais il y a eu des Suisses, dont certains notables très prestigieux, des gens très, très bien considérés. Et notamment, compris à Neuchâtel, on connaît toute la famille de Puri, etc. et d'autres. Et il y a eu quand même des rapports et des liens et des affaires, on va dire, commerciales dans lesquelles des Suisses ont été très impliqués. Et puis, l'auteur, donc Olivier Pavillon, s'appelle, fait une étude très approfondie, très didactique, très intéressante. Et donc, voilà, c'est un livre qui pourrait intéresser nos auditeurs. À part ça, parmi les livres en train d'être lus, il y a un petit roman qui est vraiment un roman très, très agréable, intéressant, qui touche aussi la jeunesse. On a des auditeurs, des auditrices jeunes. D'ailleurs, ils sont tous un peu jeunes. C'est l'esprit qui est jeune. Donc, il s'appelle La Chambre des Merveilles. C'est un auteur qui s'appelle Julien Sandrel. Et c'est une histoire qui commence mal, mais qui devient joyeuse. C'est-à-dire, une maman et son fils qui a 12 ans. Et puis, bon, il se bagarre un peu. Le fils sort à un accident grave. Il est dans le coma. Et puis, la maman, en cherchant dans les affaires du fils, trouve un petit cahier dans lequel un carnet, il dit toutes les merveilles, tous les grands rêves, toutes les grandes expériences qu'il aimait faire au cours de sa vie. Et puis sa maman, pour, d'une certaine manière, symbolique ou réelle, elle lui racontait et en même temps lui donner, peut-être, faire qu'un miracle se produise, elle va essayer d'entreprendre tout, chacun des rêves que l'enfant a voulu accomplir, c'est elle qui va le faire à sa place. Elle va lui raconter. Et ça peut être compliqué. Hein. Parfois, tu imagines une dame de 40 ans qui essaie d'accomplir les rêves d'un gamin de 12 ans, pas savoir ce qu'il a dans la tête. Mais ça, pour savoir ça, il va falloir écouter les livres. Donc, c'est La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Et pour finir, il y a un livre qui vient d'être lancé dans la lecture, qui est un livre extrêmement passionnant. Enfin, un livre qui est composé de deux bouquins, d'un auteur suédois qui s'appelle Sven Lindqvist, qui pour une fois n'est pas un polar suédois. C'est un écrivain, un journaliste et autres, voyageur. Le livre justement s'appelle « Les voyages sahariens ». Et puis, Sven Lindqvist part au Sahara, mais pas comme un touriste, pas pour faire les rallyes, etc. Il part vraiment s'immerger dans les Sahara. Mais en même temps, il part avec son ordinateur. Et c'est déjà, il y a presque 20 ans, donc tu vois, c'est pas les mêmes, hein, c'est pas c'est pas la mini tablette quelque part. Il part, il va parce qu'en même temps, il va se découvrir lui-même et il va écrire de manière tout à fait originale, tout à fait vivante l'histoire de la colonisation et de la manière occidentale de voir les autres peuples. Et donc, sa vie personnelle, sa traversée du désert dans tous les sens du terme et sa réflexion se mélangent. Et le livre est vraiment passionnant. Ça devrait presque s'étudier dans tous les cours d'histoire à l'école. Donc, ça s'appelle « Les voyages sahariens » de Sven Lindqvist. On en parlera quand ce sera fini. Ça, c'est par rapport à ce qu'est un prod, mais ce n'est qu'une petite partie. C'est la pointe de l'iceberg parce qu'il y en a bien d'autres choses.
Et là, on est dans ton bureau. Je vois que la table est toujours aussi encombrée.
La table, c'est magique. Elle se renouvelle toujours. Les livres partent, puis ça pousse tout seul comme ça. Les papiers, ça pousse comme des arbres. Et puis, parmi ces arbres qui poussent, et avec beaucoup de feuilles, bien sûr, et il y a un livre qui est très particulier. Et celui qui l'écrit, c'est aussi un journaliste, mais aussi un écrivain des policiers, des romans policiers. Mais en l'occurrence, il n'a pas écrit un roman policier. Parce que c'est un journaliste d'investigation aussi. Et lui, il est un peu fou. Il s'appelle Douglas Preston. Et un Américain. Et lui, il va se mettre dans une expédition qui va partir au cœur du Honduras, dans une forêt complètement folle, impénétrable, qui s'appelle la Mosquitia. Et là,
il n'y a pas moustique.
Oui, alors, il y en a, mais justement, on verra dans les livres que ce n'est pas à cause des moustiques, ça s'appelle comme ça. Mais oui, c'est d'ailleurs lui, il l'a pensé au début. Mais il va se mettre avec des scientifiques, il va partir avec des scientifiques, parce qu'au milieu de cette forêt, il y a ce qu'on appelle la Cité Blanche, ou la fameuse cité du dieu Sange. Justement, le livre s'appelle « La cité perdue du dieu Sange », qui est une des dernières cités, endroits un peu mythiques, dont on n'était pas sûr si ça existait ou pas, qui gardait des vestiges archéologiques d'une civilisation perdue, qui n'était pas les Aztèques, ni les Mayas, ni autres, et dont Hernán Cortés parlait, mais personne n'avait trouvé. Et ces gens-là, ils vont se mettre là-dedans, dans une forêt qui est entourée d'autres forêts un peu moins impénétrables, mais couvertes non seulement des d'arbres, mais aussi des cartels de la drogue, et qui font, tu imagines, avec, avec tous ces explorateurs théoriquement riches qui traversent par là ce qui peut leur arriver. Et puis, si on échappe aux trafiquants de drogue, et on peut tomber dans, chez les jaguars, chez les serpents, etc. Donc, c'est très sympathique. Et puis, Douglas Preston, qui est un journaliste d'un peu fou, mais qui n'est pas, il part avec cette expédition, qui est cadré par un ancien marine, machin, qui les apprend comment survivre si tu vois un serpent en face de toi, si on te mord les doigts, il faut les couper, voilà, toutes ces choses, c'est agréable. Et puis, il parle dans, et raconte cette expérience incroyable dans ce livre, qui est un livre d'investigation, mais un livre d'aventure en même temps, d'aventure réelle, et qui s'appelle « La cité perdue du dieu singe ». Voilà parmi les livres qui sont sur mon bureau et qui attendent un lecteur, une lectrice, généreusement prêt à donner sa voix.
Et puis, dans l'actualité du livre et de l'édition, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ces temps?
Alors, écoute, il y a des choses qui sortent. Tu sais qu'on est dans une période dans laquelle il y a c'est pas un creux, mais il y a la rentrée littéraire va commencer bientôt. Ça va commencer en juin, ça commence déjà, on commence déjà à titiller un peu, à parler, et puis juillet, août, donc on est dans cette période-là. Il y a toujours de l'actualité, il y a toujours de nouvelles choses qui paraissent, et dans l'actualité littéraire, il y a des romans, c'est une période dans laquelle, évidemment, il y a des romanciers français qui publient, il y a aussi c'est une période où on profite beaucoup pour publier des bons romans étrangers, parce que justement, c'est pas la rentrée, avant la rentrée française, on met des choses. Il y a par exemple un roman qui est extrêmement intéressant, je ne vais pas trop parler, mais qui vient de sortir, qui est, tu sais que l'ETA, hein, tu vois, c'est basque, a déposé les armes, en se disant il y a quelques jours, quelques semaines. Et puis justement, il y a un roman qu'on considère comme les grands romans de cette problématique du Pays Basque qui vient de paraître en français, qui s'appelle Patria, justement. Donc Patria, c'est patrie en français. Et l'auteur s'appelle Fernando Aramburu. Il a eu un grand prix en Espagne. Et ça raconte toutes ces problématiques à travers la vie des deux familles. Et une qui était pro-ETA et l'autre anti. Et donc c'est un livre qui me donne vraiment une vision de la chose. Et donc ça vient de sortir. Et puis nous aussi, on va le faire lire. Mmh.
Voilà. Enfin, il y a toujours de quoi lire.
Il y a toujours de quoi lire, ça c'est clair. Il y aura toujours. Et le seul qui a dit qu'il avait lu tous les livres, c'était Mallarmé, mais c'était juste pour faire un poème.
Et puis il en faisait peut-être. Hein. Il s'en produisait peut-être un peu moins à l'époque.
Mais oui, oui, mais quand même.
Combien on compte actuellement en langue française de nouveautés par année?
Ouf, il y a. Alors pour la rentrée littéraire, ça dépend l'année, mais bon an, mal an, ça fait entre 500 et quelques, 600 et quelques titres, et français. Mmh. Et après, il y a tous les autres. Donc, oui.
Donc, il y a de quoi faire. Pour les auditeurs, pour les lecteurs, on n'est encore pas au chômage.
Mais non, il y a du temps, il y a de la matière, il y a de la matière sonore et papier.
Merci beaucoup, Benigno, et puis au mois prochain.
Merci, à toi aussi.